France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Géorgie ce soir. Les manifestants, c'était le 2 mai dernier. C'est la Géorgie, ne cédera pas plus qu'elle ne s'écartera de la voie européenne. Pas de direction russe, ce gouvernement ne pourra pas adopter cette loi. Fermez les guillemets. Bonsoir, Tornike Gordadze.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po, vous êtes ancien ministre géorgien en charge des relations avec l'Union. On va expliquer dans un instant de quelle loi on parle. Je voulais juste que vous nous disiez d'abord, des manifestations, on les a vues, elles ont été extrêmement fournies, extrêmement nombreuses. Là, pour l'instant, on est dans un, j'allais dire, peut-être dans un entre-deux. Il y a une nouvelle manifestation qui est prévue samedi, puisque la fameuse loi doit passer en dernière lecture lundi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Tbilissi notamment ?
En ce moment, le pouvoir a profité des fériés, c'était la Pâque orthodoxe, et le lundi de Pâques, et a procédé à des répressions. Hier soir, plusieurs personnalités connues de la société civile ont été agressées par les bandes masquées devant leur domicile. Des centaines, voire des milliers de participants à des manifestations reçoivent des coups de fil de menaces. Malheureusement, le pouvoir géorgien ressemble de plus en plus à leurs homologues biélorusses, russes. Donc il s'agit vraiment d'un glissement très très dangereux vers l'autoritarisme.
J'allais vous demander si vous aviez déjà senti, parce qu'on va revenir à qui est au pouvoir en Géorgie, est-ce que vous aviez déjà senti dans ce pays de la Géorgie cette ambiance-là ? Est-ce que c'est vraiment neuf, ou en tout cas à ce point-là ?
Moi, dès 2012, dès l'arrivée au pouvoir du rêve géorgien, de ce milliardaire qui s'est enrichi en Russie et qui est le leader informel de ce pays.
Qui a aussi un passeport français.
Pardon ?
Il a aussi un passeport français.
Il a aussi un passeport français. Je pense que la France.
Et la Légion d'honneur.
Reviendra là-dessus. La France a un rôle à jouer dans cette crise politique. En tout cas, c'est ma conviction. La situation s'est quand même détériorée depuis quelques années et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. En février 2022. La Russie a accru ses pressions sur la Géorgie et le gouvernement géorgien s'est désolidarisé de l'Ukraine. L'Ukraine avec laquelle la Géorgie avait des relations extrêmement fortes d'alliance depuis l'indépendance. Et on voit maintenant ce régime de s'écarter de plus en plus de la voie de l'intégration européenne et de se rapprocher de la Russie.
Alors le projet de loi dont on parle, c'est une sorte de copier-coller effectivement d'une loi répressive russe, totalement inspirée, puisque ça dit que toute organisation médiatique ou ONG qui reçoit plus de 20% de son financement par l'étranger doit s'enregistrer comme suit, organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère, donc vraiment un copier-coller. Il a déjà été présenté l'année dernière, ce projet, il y a eu des manifestations et finalement le pouvoir a reculé. Moi j'aimerais savoir, et même au-delà de la guerre en Ukraine, au fond, qu'est-ce qui fait que là, il se sent pousser des ailes et qu'il se dit « je peux y retourner » parce que cette fois, ils plieront.
Bon, déjà, juste une phrase par rapport à cette loi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le plus grand bénéficiaire de l'aide étrangère et de l'Union européenne et des États-Unis, c'est bien le gouvernement géorgien. Donc le gouvernement géorgien, s'il appliquait cette loi à lui-même, serait le plus grand agent de l'influence étrangère, paradoxalement. Donc pourquoi maintenant une deuxième tentative ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, la Géorgie a eu le statut du candidat à la décision.
Immédiatement. C'était en 2023. Décembre 2023, c'est extrêmement récent.
Donc c'est une décision géopolitique de la part de l'Union européenne qui a ouvert la porte à la Géorgie et bientôt, si tout va bien, si tout allait bien, les négociations devaient commencer sur l'adhésion. Et ce gouvernement veut saboter ce processus, certainement pour faire plaisir à la Russie. C'est un acte de loyauté démonstration de loyauté vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Et deuxième chose importante, c'est qu'il y a des élections en Géorgie en octobre. Ce gouvernement se sent en difficulté et affaiblir la société civile, les médias indépendants plusieurs mois avant ces élections est tout à fait dans les plans de ce gouvernement qui veut obtenir le résultat qu'il veut.
L'homme fort de ce gouvernement, il s'appelle Bidzina Ivanishvili. Est-ce que vous pensez qu'il a joué un double jeu, qu'il a eu un double discours jusque-là? Parce qu'au moment de l'adhésion à l'Union, il ne dit rien, évidemment. Il y a même des discussions d'adhésion à l'OTAN en Géorgie. On se souvient aussi de ce qui s'est passé en 2008. Enfin, tout ça est finalement assez frais. Vous avez le sentiment qu'il a joué double jeu, qu'il montre enfin son vrai visage ou pas?
Bien sûr, il a joué le double jeu, comme tout le gouvernement du rêve géorgien. Principalement parce que la population géorgienne, dans son immense majorité, est pro-européenne. Donc, moi, je reste persuadé que ce gouvernement avait déjà un agenda pro-russe dès le début, mais c'était quelque chose qui était impossible d'appliquer directement.
C'est vrai qu'il y a même des membres de rêve géorgien dans les manifestations, au fond, alors qu'ils rêvent peut-être d'une certaine Europe qui n'est pas forcément la même que la nôtre, mais il paraît qu'il y a aussi ça, malgré tout.
Alors, les pro-européens qui avaient parmi au sein du rêve géorgien l'ont déjà quitté, ou sont en train de le quitter, parce que le gouvernement géorgien, encore une fois, est dans une espèce de dissonance cognitive à usage interne. Parce qu'à l'étranger, tout le monde a compris que ce gouvernement ne voulait pas d'Europe. Alors, ils expliquent à la population que malgré ce que dit l'Union européenne, malgré ce que dit Bruxelles, malgré ce que disent les États-Unis, malgré ce que disent toutes les grandes capitales européennes, cette loi est tout à fait compatible avec l'intégration européenne. Or, tout le monde leur dit que c'est pas compatible. Ils répètent ça de façon complètement têtue et éhontée pour ne pas perdre une partie de leur électorat qui reste pro-européen. Et l'exemple qu'il cite, évidemment, c'est l'exemple de Viktor Orban.
Bien sûr, mais je me disais qu'il pouvait se rêver, en fait, demander l'adhésion, mais se rêver en Viktor Orban, au fond, c'est-à-dire profiter de l'Europe pour ce que ça apporte, tout en restant à la Orban pour ce qui est des valeurs démocratiques.
C'est totalement irréaliste, parce que personne au sein de l'Union européenne ne veut un deuxième Orban. Il n'y a aucune chance avec cette stratégie d'adhérer à l'Union européenne. C'est juste que ce gouvernement veut entretenir cette ambiguïté à l'intérieur du pays. Au sein d'une population qui, quand même, dans son immense majorité, a compris ce double jeu. Et comme ce gouvernement n'arrive pas à convaincre la population que l'Europe, c'est mal, ils disent non, nous voulons l'Europe, c'est l'Europe qui ne veut pas de nous. Donc, en adoptant ce type de loi, évidemment, ce qui va suivre, c'est l'arrêt de négociations sur l'ouverture des négociations. Il peut y avoir un rétropédalage par rapport à l'accord sur les visas, par exemple.
Je vais vous poser la question, c'est l'Europe qui est coincée aujourd'hui, parce que s'il y a un rétropédalage, au fond, c'est aussi une manière de donner un morceau de victoire à Moscou et à Vladimir Poutine. Donc, c'est un peu un crash test pour l'Europe, ça aussi, non ?
Tout à fait, mais il y a une troisième voie tout à fait possible de garder ce statut de candidat pour la Géorgie. D'ailleurs, ce statut a été donné au peuple géorgien et non pas au gouvernement. Parce que le gouvernement, l'Union européenne, cette décision du Conseil de l'Union en décembre, c'était « on vous donne le statut candidat, mais il y a 9 conditions à remplir avant le début des négociations ». Le gouvernement a profité de ce statut de candidat pour l'usage interne, a dit à la population « regardez, nous avions raison », et a accru les répressions. Bon, maintenant, c'est plus possible. L'Union européenne ne veut pas continuer les négociations avec ce gouvernement. Par contre, ce que peut faire l'Union européenne, et ce que peut faire la France également, c'est d'essayer de désamorcer cette crise avant que l'irréparable arrive. On voit maintenant le déferlement de la violence. Il n'y a pas eu de victimes encore. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été hospitalisés, mais il n'y a pas de victimes encore.
Vous le craignez pour les prochaines manifestations
Je pense que, par exemple, le gouvernement a prévu la troisième lecture le 17 mai. Pourquoi le 17 mai ? Le 17 mai, c'est le gouvernement a introduit la journée de la pureté de la famille. C'est le jour où les groupes les plus conservateurs, les plus anti-européens, les plus anti-occidentaux sont mobilisés, souvent en accord avec le gouvernement, et ils espèrent que en mobilisant ces groupes, il y aura de la violence ils pourront ensuite justifier l'usage de la violence contre les manifestants.
Parce que pas très tranquille quand même, ça devait être promulgué le 7 mai si je ne m'abuse, et puis le 13 mai, désormais c'est le 17 mai, donc les choses ne sont pas si simples. Quand le texte a été retiré l'année dernière, on a dit que si il avait été retiré, c'est aussi parce que le pouvoir craignait une révolution. Est-ce qu'on est à deux doigts de ça aussi ou pas? On a beaucoup comparé, mais on aime bien comparer ce qui est difficilement comparable. On s'est dit, est-ce que c'est le Maïdan des Géorgiens, par exemple? Parce que c'est des comparaisons qui ne tiennent pas la route pour l'instant.
Oui et non. Déjà, chronologiquement, la Géorgie a déjà eu une révolution de couleur avant l'Ukraine. C'était en 2003, c'était la première révolution.
Elle a même été envahie avant l'Ukraine, si on y songe, puisqu'en 2008, vous avez perdu un cinquième de votre territoire.
Deux provinces géorgiennes qui ont été occupées par la Russie. Donc, mais par contre, l'actuel moment de la crise ressemble ressemble beaucoup à la crise de Yanukovych en Ukraine en 2013-2014. C'est-à-dire, Yanukovych, comme Ivanishvili, a fait croire à sa population qu'il continuait l'intégration européenne, et au moment fatidique, il a dit non, finalement, nous préférons la Russie. C'est ce moment fatidique qui arrive aujourd'hui en Géorgie, où le gouvernement géorgien ne peut plus mentir, ne peut plus avancer masqué, et ils disent non, finalement, on critique ouvertement l'Union européenne. L'homme fort du pays, Ivanishvili, a fait un discours extrêmement violent, accusant l'Union européenne d'avoir fomenté les révolutions de couleur en Géorgie, en Ukraine, être même à l'origine des conflits avec la Russie. C'est-à-dire, dans son discours maintenant, c'est l'Union européenne qui est responsable de la guerre de 2008 en Géorgie et de la guerre de 2022 en Ukraine.
Mais puisque la Russie, du coup, a commencé en quelque sorte en 2008, effectivement, pris l'Abkhazie et le City du Nord, est-ce qu'il vous arrive de vous dire, nous, on est vraiment les prochains, en fait, vraiment, enfin, et les chars vont arriver? Est-ce qu'on peut imaginer ce copier-coller-là par rapport à l'Ukraine?
On ne peut pas exclure, évidemment, cette répétition de 2008 ou de 2014 ou 2020. En Géorgie. C'est pour ça que je pense que l'Europe et les Occidentaux, de façon générale, peuvent jouer un rôle, désamorcer la crise, de parler directement à M. Ivanishvili, qui n'a aucune fonction officielle, mais qui dirige tout ça, et de le convaincre de trouver une sortie pacifique de cette crise politique, d'abandonner cette loi et d'organiser les élections de façon libre et démocratique. Parce que ce que veulent les gens, c'est pas la révolution. Les 50 000, 100 000 manifestants qui se rassemblent quasiment tous les jours à Tbilissi, mais ils veulent que cette loi soit retirée et que les élections se déroulent de façon libre et compétitive.
Sachant, c'est un grand paradoxe que les relations diplomatiques avec la Russie n'ont pas été rétablies depuis 2008.
Non, parce que c'est pas possible, puisque la Russie a ouvert deux autres ambassades sur le territoire géorgien, l'ambassade en Ossétie du Sud et l'ambassade en Abkhazie. Donc la Russie ne reconnaît pas l'intégrité territoriale de la Géorgie. Il est impossible de formellement rétablir les relations diplomatiques avec la Russie.
Toute dernière question, Tornike Gordadze, pardon, la présidente Zourabichvili, est-ce qu'elle peut déposer un veto à cette loi? C'est ce qu'on attend d'elle ou pas?
Elle peut déposer le veto, elle va le faire, mais ce veto est facilement contournable par le Parlement, où le rêve géorgien a une majorité.
On a compris que la loi n'était pas encore examinée et que donc ça peut amener effectivement, enfin en tout cas dans sa troisième version, dans son troisième volet, ça peut amener à de nouvelles manifestations. Il y en a une samedi, on suit la Géorgie avec attention. Tornike Gordadze, merci beaucoup de passer chez nous.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe sur les plages américaines. Alors comme ça, il paraît que les Noirs ne nagent pas et ne surfent pas. Un préjugé qui est la vie rude, figurez-vous, et contre lequel se battent justement les surfeurs noirs américains. C'est Anne Lamotte qui va vous le raconter. Pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Kevin Dufraîche.
Au Kenya, les médecins hospitaliers reprennent le travail après 8 semaines de grève.
Et le Monde à 18h50, Claude Guibal, bonsoir Claude.
Bonsoir, nous on va parler d'argent. L'argent russe gelé en Europe et les 27 viennent enfin de se décider sur son utilisation.
La tech, la première, comme tous les jeudis avec Stéphane. Stéphane Jourdain, salut Stéphane.
Bonsoir Fabienne, aujourd'hui on parle de la Chine, l'autre pays des fake news.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini et les Rolling Stones ne sont pas loin. Dreamy Skies sur France Inter. To take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while. Where there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the walls, and I got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds, I'll be skating on glass, I'll be chopping up wood. Is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky tonk. 'Cause I got to take a break from it all.
and the small town chatter and the know-it-alls to a place where no one can call, and I won't hear the sirens or the maddening crowds, just the bark of a fox and the hoot of an owl. I ain't got no connections or a satellite phone. I'm avoiding the pictures and the people back home. And I just got to break free from it all. You see, it can't last forever. I'll be diving back in. It's good for my soul. Cause I love the laughter, the women, the wine. I just got to break free from it all.
45 seconds. Here's Yellow and Red, Split Peak. Yellow
leur
and
portage
red.
D'un jour dans le monde est aux États-Unis et ça commence avec un stéréotype qui a la vie dure. Blacks don't swim, blacks don't surf. Les Noirs ne nagent pas, ils ne surfent pas. Préjugé tenace, alors que nous sommes 60 ans après la fin de la ségrégation, le pays va d'ailleurs célébrer cet anniversaire cet été. Les associations de surfeurs noirs ont décidé que ça suffisait maintenant, le racisme dans l'eau, sur l'eau, hors de l'eau. Le reste, c'est Anne Lamotte qui raconte.
And blew up and riding with 10 seconds.
Bienvenue à Huntington Beach, baptisée Surf City, dans le sud de la Californie, un jour de compétition. Elle est organisée par plusieurs associations de surfeurs noirs. Ils sont des centaines à s'être inscrits. Parmi eux, Justin House, 24 ans, victime comme tant d'autres de racisme dans l'eau. Son pire souvenir, c'était il y a 3 ans à Los Angeles. Un surfeur qui se met à l'insulter en prononçant notamment le mot tabou qui commence par N et que beaucoup d'Américains refusent de prononcer. Pour Justin, tout bascule.
When he called me the N-word, I was just like, I never knew that this was like what people did out here, you know?
Quand il m'a appelé par le mot qui commence par N, je me suis dit, aïe, je l'avais pas vu venir. Moi, je surfais juste parce que ça m'amusait, mais en fait, le surf, ça peut être raciste. Point.
Oh wow, this is definitely a predominantly white space.
Et tout à coup, je me suis rendu compte que c'était un espace super dominé par les blancs.
All the beach communities are predominantly white.
Les communautés qui vont à la plage sont majoritairement blanches.
Creates a predominantly white surf culture.
Ça crée une culture surf majoritairement blanche. Et du coup, c'est tendu quand un noir s'amène ici pour faire un truc dans un environnement dont les blancs considèrent être les propriétaires. C'est mon jardin ici. Va-t'en de ma vague. Non, mec, c'est pas ta vague. Elle est au dauphin, cette vague. Ça me fait bien rire.
Résultat, Justin crée son club de surf, le Ebony Beach Club, le club de la plage ébène, et donne régulièrement des cours de surf gratuits à Los Angeles. Comme de plus en plus d'organisations sur la côte ouest et la côte est des États-Unis. On en compte des dizaines rassemblées sous un même slogan, « The chocolate tide is rising », la marée chocolat monte. Leur but, marteler que le surfeur n'est pas forcément blond et blanc, que la ségrégation qui a systématiquement éloigné parfois dans le sang les noirs de l'océan et des piscines est révolue, que leurs ancêtres en Afrique nageaient et surfaient. C'est toute une éducation à refaire pour Lizelle Jackson, cofondatrice de l'organisation Color the Water, donnant de la couleur à l'eau.
On prend le temps et le soin de présenter l'océan aux Afro-Américains en leur disant « Vous êtes ici à votre place. L'océan ne doit pas être réservé aux Blancs comme vous le voyez aujourd'hui. On avait une relation à l'eau, on nous en a privés. Donc il est temps pour nous de récupérer quelque chose qui fait depuis longtemps partie de notre histoire. »
Oh, yeah, it sucks. Everybody keep an eye on him, please.
Le déclic viendra peut-être quand on verra un champion ou une championne de surf afro-américain intégrer le circuit mondial. C'est ce qu'espère Nigel Lewis. Il tient un surf shop bien connu de la plage de Rockaway dans le Queens à New York.
Quand on voit quelque chose, on comprend que c'est possible. Comme quand on a vu Barack Obama devenir président. Pour la plupart des gens, ça ne devait jamais arriver et tout à coup on s'est dit « Attends ». Peut-être que je peux le faire. Comme quand Tiger Woods a excellé en golf. C'est une fierté. Non seulement je le vois, mais je le vois réussir, avoir des sponsors, partir en tournée. En surf, c'est pareil. Il suffira de voir le meilleur niveau accompli par quelqu'un qui nous ressemble pour qu'on se dise « Oh, bah c'est bon, je peux le faire ».
En attendant, d'après la Fédération américaine de natation, 64% des enfants noirs ne savent pas nager aux États-Unis.
Anne Lamotte pour le reportage depuis les États-Unis. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord au Brésil, Kevin, où l'armée vient en aide aux sinistrés des inondations.
Oui, à l'image de ce porte-avions chargé de vivres et de matériel à Rio avant de prendre la direction de Porto Alegre, la capitale de l'état du Rio Grande do Sul, où ces inondations ont déjà fait au moins 100 morts et où il a de nouveau plu hier, perturbant les opérations de secours. Et c'est dans ce contexte que l'Organisation météorologique mondiale publie un rapport sur les catastrophes climatiques en Amérique latine l'an dernier. Elles n'ont jamais étaient aussi nombreuses, dit ce rapport. 67 épisodes de catastrophes météo, selon l'OMM, accentués par le réchauffement climatique et le phénomène El Niño. Ce que note surtout l'agence onusienne, ce sont les conséquences des tempêtes, canicules et autres sécheresses, des dizaines de milliers de morts, 18 milliards d'euros de dégâts en 2023 et des épidémies plus fortes. 3 millions de cas de dengue ont été signalés au cours de la première moitié de l'année, battant ainsi le précédent record. Autre exemple, l'Uruguay a connu ses premiers cas de chikungunya l'an dernier, maladie transmise par un moustique. Autre secteur affecté, l'agriculture. 14 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire sur le sous-continent.
Et nous voici au Kenya où une longue grève s'achève.
Celle des médecins, des soignants qui travaillent dans les hôpitaux. On en avait parlé ici même. Ça durait depuis près de 2 mois, 56 jours de grève exactement pour des revalorisations de salaire durant lesquels l'activité de la soixantaine d'hôpitaux publics du pays était quasiment à l'arrêt dans un contexte extrêmement difficile au Kenya, touché lui aussi par des pluies torrentielles et des inondations, plus de 250 morts et des épidémies de choléra notamment. C'est dire à quel point les Kenyans ont besoin de leurs hôpitaux. Le gouvernement s'engage donc à payer des arriérés de salaire accumulés ces dernières années et promet des négociations sur la rémunération des internes qui représentent tout de même un tiers des effectifs. L'exécutif kényan qui a donc lâché après avoir estimé pendant 2 mois que les revendications des médecins n'étaient pas viables économiquement. Le Kenya est en pleine cure d'austérité pour tenter d'éponger sa dette.
Et puis nous sommes aux États-Unis, on y retourne en tout cas avec un homme qui plaide coupable.
Hippei Mizuhara, ex-interprète de la star japonaise du baseball Shohei Ohtani, joueur des Dodgers de Los Angeles. Il reconnaît qu'il lui a volé près de 15 millions d'euros. D'après l'un des procureurs de Los Angeles en charge du dossier, Hippei Mizuhara a, je cite, profité de sa position de confiance auprès de Monsieur Ohtani. En fait, il a réussi à se virer de l'argent depuis le compte du joueur vers le sien, de l'argent qui lui a servi à parier et à rembourser des dettes de jeux accumulées lors de paris illégaux. En décembre 2021, entre décembre 2021 et janvier 2024, il aurait réalisé près de 20 000 paris sportifs pour un montant moyen de 10 000 euros par pari. Shohei Ohtani a toujours dit qu'il n'était au courant de rien. Il faut dire qu'il gagne 65 millions d'euros par an, mais tout de même, son ancien traducteur et ancien ami, également encourt donc jusqu'à 30 ans de prison.
C'est long quand même.
C'est très long.
Même en musique,
pour des paris.
Kevin, vous verrez, vous partez avec Seu Jorge, le Brésilien qui reprend Life on Mars de David Bowie.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você.
Seu poder vem do sol. Minha medida, meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Não vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
C'est aujourd'hui et sa version de Life on Mars sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, tiens, justement, c'est Claude Guibal.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et ce soir, Claude, on parle d'argent, celui qui est généré par les avoirs russes gelés depuis le début de la guerre en Ukraine et qui devrait donc désormais être utilisé par l'Union européenne pour financer la poursuite de l'aide.
Et oui, Fabienne, parce que hier, les 27 sont enfin parvenus à un accord. Je dis enfin parce qu'il a quand même fallu 2 ans pour y arriver. On parle d'une somme phénoménale, plus de 300 milliards d'euros gelés donc depuis l'adoption des premières sanctions contre la Russie par l'Union européenne, les États-Unis et leurs alliés. L'essentiel de cet argent se trouve en Europe. C'est là qu'il a été placé par la Banque centrale russe. 70% de ses actifs sont même détenus au même endroit, en Belgique, par le dépositaire central de titres Euroclear. Alors ça, c'est de l'argent étatique. Il faut aussi y ajouter des actifs privés, eux, des oligarques. Et ça, il y en a pour 19 milliards. Les autorités ukrainiennes demandent depuis longtemps que cet argent leur soit transféré pour financer la reconstruction de l'Ukraine, estimée déjà à plus de 60 milliards d'euros.
Et le hic, c'est que prendre et utiliser cet argent, c'est totalement interdit par le droit international.
Bah oui, parce que c'est de l'argent public, hein, Fabienne. C'est de l'argent qui appartient à la Russie. Il est juste immobilisé et il est censé être rendu une fois que les sanctions seront levées. Toucher à cet argent serait du vol, dit Moscou, qui promet des poursuites judiciaires absolument dantesques. Mais voilà, la guerre, elle dure et son financement est devenu de plus en plus aléatoire. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Europe. Arracher un consensus pour voter la poursuite de l'aide, ça a été très compliqué, ça a duré des mois et ça a eu des conséquences très lourdes pour l'Ukraine en manque de munitions et de matériel. Il faut donc trouver autrement de l'argent et c'est sûr que cette manne pourrait résoudre tous les problèmes, puisque à titre de comparaison, c'est 300 milliards d'euros russes. C'est 6 fois le montant du dernier paquet d'aide européenne voté après des mois de blocage par la Hongrie. C'est aussi plus de 5 fois le montant de cette aide américaine longtemps bloquée par le Congrès. Alors les juristes européens ont réfléchi à des solutions et les diplomates, eux, ont tenté de rassurer les États qui craignent des conséquences judiciaires, mais qui aussi craignent que ça ne ruine la confiance dans la zone euro en créant un précédent qui pourrait déstabiliser le système monétaire international.
Et le consensus trouvé, c'est donc d'utiliser juste les revenus générés par cet argent.
Et ces revenus, c'est une jolie somme, plus de 3 milliards d'euros par an. Les Européens sont donc en train d'avaliser leur utilisation. 90% vont être affectés à la Facilité européenne pour la paix, c'est la structure de l'Union européenne qui finance les achats d'armes pour l'Ukraine. Et puis les 10% restants, eux, ils iront au budget de l'Union pour renforcer l'industrie de défense ukrainienne. Alors on n'en est pas encore à toucher aux actifs, mais l'idée commence à faire son chemin, puisque d'autres pays membres du G7, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon, sont prêts à le faire, eux. Et là, avec le dollar, la livre et le yen dans le même bateau, eh bien pour l'euro, il y aurait moins de danger. Et ça, évidemment, ça pourrait tout changer au financement de la guerre.
Claude Guibal, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la tech, la première dans Un jour dans le monde. Et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter. Le 18-20.
Stéphane, la France, cette semaine, a déroulé le tapis rouge pour le président chinois Xi Jinping, alors même que Pékin déploie d'immenses efforts pour lancer des campagnes de désinformation qui ciblent Taïwan, l'Europe, les États-Unis. On parle souvent de la Russie, mais la Chine, c'est vraiment l'autre pays des fake news et des cyberattaques.
Et oui, et la dernière victime qui en a fait les frais, c'est la tête de liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy.
Notre défi, c'est de sortir de la naïveté aujourd'hui. Je le redis, sortir de la naïveté. Et je ne me laisserai pas intimider par le fait qu'aujourd'hui, le régime chinois semble manifestement prendre pour cible les voix qui cherchent à contrer son projet de fragilisation de l'Europe.
Sortir de la naïveté, dit-il sur LCI, comme 6 autres de ses collègues, l'eurodéputé a été la cible d'un groupe de hackers pro-Chine, APT31, qui ont tenté de prendre le contrôle des boîtes mail des élus au Parlement européen. On ne sait pas si ces hackers sont parvenus à leur fin, mais les parlementaires visés parlent d'actes de guerre. Ils ont tous en commun de travailler sur des sujets relatifs à la Chine, comme le Covid-19, la répression des Ouïghours ou les manifestations à Hong Kong. Tout comme Raphaël Glucksmann, autre député européen qui a révélé il y a 3 semaines qu'il a été attaqué par des comptes pro-Chine, l'accusant d'être le cheval de Troie de la CIA en Europe. Lui aussi pointe la naïveté vis-à-vis de la Chine.
Il faut s'en inquiéter, il faut s'en prémunir, il faut cesser d'être naïf. Moi, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences et je peux vous dire que la Chine a mis ses pas dans ceux de la Russie et qu'aujourd'hui, c'est une puissance de déstabilisation interne de nos démocraties qui cherche à influencer nos élections.
C'était lundi, à notre micro.
Alors Stéphane, est-ce qu'on est naïf sur le rôle que joue la Chine? Est-ce qu'elle est vraiment aussi offensive que la Russie?
C'est en tout cas la conclusion d'une commission d'enquête canadienne qui vient d'être publiée. Les dernières élections générales au Canada, en 2021, ont été entachées par des actes d'ingérence de la Chine. Désinformation, pot de vin, cyberattaque, chantage. La Chine est, je cite, de loin la plus grande menace pour l'espace électoral canadien devant la Russie, selon ce rapport.
Et alors, les États et les élus, Stéphane, ne sont pas les seuls à pointer le rôle de la Chine, les géants de la tech aussi.
Oui, la Chine est au cœur de tous les rapports d'alerte sur les menaces en ligne que publient chaque trimestre les grandes plateformes comme Google, Meta ou Microsoft. Juste un chiffre pour que vous ayez une idée de l'importance de ces opérations de déstabilisation. En février, Google a fermé 70 chaînes YouTube pro-russe et anti-Ukraine. Et pour le même mois, 1300 chaînes YouTube liées à des opérations pro-chinoises. C'est 20 fois plus. Le directeur général de Google France, Benoît Tavaca, parle de contenus en français extrêmement nombreux.
Récemment, on a détecté en fait des campagnes réalisées par la Chine, énormément de contenus en français, de vidéos qui ont été massivement mises en ligne sur notre plateforme, qui ont été retirées et détectées assez rapidement. Et en fait, ces contenus, à la fois touchés à l'image de la Chine, au narratif chinois en quelque sorte, mais également à des éléments de désinformation clairs relatifs aux conflits qu'on peut avoir notamment en Afrique ou en Ukraine.
Des opérations qui visent à peser sur l'issue des conflits ou sur l'issue des élections. C'est la conclusion d'un rapport de Microsoft publié le 4 avril qui montre comment la Chine utilise l'intelligence artificielle pour, je cite, attiser les divisions et perturber les élections aux États-Unis et dans le monde entier.
Mais alors à quoi ils ressemblent ces fakes poussés par la Chine?
Alors quand on compulse ces différents rapports, ce qui frappe immédiatement, c'est que ça part dans tous les sens. En février, Meta a débranché plusieurs dizaines de faux comptes Facebook pro-Chine qui se faisaient passer pour des membres de familles de militaires américains et pour des activistes anti-guerre. L'objectif, introduire un discours anti-guerre en Ukraine. Ces pages Facebook renvoyaient vers une pétition critiquant le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Dans une autre opération en ligne, visant le Japon, des comptes pro-chinois ont diffusé une vidéo anxiogène générée par de l'intelligence artificielle.
With the rise of nuclear mushroom clouds, woke up Godzilla. It is Japan's collective trauma of nuclear destruction.
Je vous raconte ce qu'on voit dans cette vidéo, un énorme Godzilla qui émerge des eaux contaminées de la centrale de Fukushima au Japon pour foncer sur la Chine. Et pour Clint Watts, qui a rédigé le rapport de Microsoft, cette vidéo est typique des opérations pro-Chine.
La vidéo sur les eaux de Fukushima relâchées dans la mer a été utilisée pour tenter de faire monter une polémique, de semer la discorde entre deux pays. En cela, elle est typique des vidéos poussées par les Chinois, qui cherchent à polariser l'opinion publique d'un pays ou à accentuer des rivalités entre deux pays.
Et Stéphane, quelle est l'efficacité de ces opérations de désinformation ?
Alors, c'est la grande question et on l'a posée à Clint Watts de Microsoft.
Les Chinois ont bien compris ce qu'il fallait faire pour générer un grand nombre de contenus, mais ils ne sont pas encore parvenus à toucher un large public. Et c'est vrai que ça, c'est un objectif beaucoup plus dur à atteindre. Ça prend souvent beaucoup plus de temps. Il faut apprendre les techniques pour y arriver. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que la Russie a commencé il y a une dizaine d'années, en générant des tonnes de contenus pour créer des polémiques. Et ça leur a pris du temps avant d'y arriver.
Le rapport de Meta, qui pointe le grand nombre de contenus générés par des pros chinois, estime qu'in fine, les bots chinois semblent avoir parlé aux bots chinois. Bref, comme le dit Wired, la bible de la tech aux États-Unis, depuis 7 ans, la campagne de désinformation soutenue par l'État chinois se déploie à grande échelle et pourtant, elle passe inaperçue. Conclusion de Wired, la Chine est mauvaise en désinformation pour l'instant.
Voilà, musique de suspense et emoji qui fait peur. Stéphane Jourdain, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Corinne Audouin. Et puis il y a le téléphone sonne, bonsoir Fabienne Lemoyne.
Bonsoir Fabienne.
Et ce soir, alors, passion Eurovision.
Je ne résiste pas, histoire de réveiller le fan ou la fan qui sommeille, je le sais, sûrement vous.
France, two points. France, 2 points.
Mais c'est difficile de trouver plus de points.
Effectivement, on espère d'ailleurs que la Suède sera plus généreuse samedi qu'en 1988, quand elle donnait ses 2 petits points à la France pour que Slimane et sa chanson « Mon amour déjoue le sort des trônes Marie-Myriam » finissent avec ses 47 ans, son victoire pour la France. Bref, on a surtout envie que vous nous racontiez votre Eurovision, un événement de partage, comme nous dit Zoé, dont il ne faut pas avoir honte, des soirées qui affichent souvent les différences, où s'invite aussi la géopolitique. Ouais. Bref, l'Eurovision, kitsch ou pas, ça ne laisse personne indifférent.
01 45 24 7000 pour discuter avec nous. Même chemin par WhatsApp et à tout de suite.